l'invité du jour.
7h43 sur RJFM, il a présenté ses vœux avant-hier au centre Atanor. Le maire de Montluçon et l'ancien président de la Com d'Aglo, en fait, hein, Daniel Duglery, est dans nos locaux ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Période des vœux, évidemment, qu'est-ce qu'il faut souhaiter rapidement aux Montluçonnais et aux habitants de l'Aglo d'une manière générale cette année?
Je souhaite à toutes et à tous des vœux chaleureux, de bonne santé, de réussite pour chacune et chacun, mais également pour tous ceux qui leur sont chers. Et puis on peut souhaiter à la France une meilleure année du point de vue économique que 2016, mm-hmm. du point de vue de l'emploi notamment, et puis pour le monde il faudrait que les guerres, et notamment au Proche-Orient, cessent, parce que ce sont des centaines de milliers de personnes qui souffrent dans leur chair de ce problème que nous n'avons pas été capables, nous, de gérer convenablement. Et il faut reconnaître qu'au Proche-Orient, nous avons fait depuis des années et des années, et singulièrement les Américains, un certain nombre d'erreurs. Et c'est pourquoi je prônais l'autre soir le retour à la diplomatie traditionnelle de la France, c'est-à-dire que nous soyons, nous Français, capable de parler en notre nom avec tous, y compris ceux qui ne nous ressemblent pas, et sans l'intention de les transformer à notre image. J'ai donné justement l'image du général de Gaulle qui a été le premier à reconnaître la Chine populaire alors qu'il n'était pas maoïste. Je crois que nous devons avoir, nous, puisque le couple franco-allemand, c'est un peu difficile aujourd'hui, mais ça devrait être l'objectif à atteindre, c'est-à-dire que nous ayons en Europe un couple fort, capable de parler de la même voix du point de vue diplomatique sans s'en remettre aussi bien à M. Trump demain qu'à M. Poutine. Il y a là vraiment une vraie réflexion à conduire, car nous sommes les premiers concernés. Aujourd'hui, les migrants arrivent massivement chez nous, et donc nous devons avoir une véritable politique étrangère.
Il y a eu notamment ce problème avec ces attentats en Turquie, avec des Montluçonnais touchés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous avez des nouvelles?
C'est un exemple. Voilà, pour la première fois, nous sommes directement concernés par ces attentats, puisque la communauté turque est meurtrie dans sa chair. Deux jeunes Montluçonnais qui étaient donc à Istanbul pour les fêtes de fin d'année ont été grièvement blessés. Un troisième qui était présent également dans la discothèque aujourd'hui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il est vraiment traumatisé, et donc nous sommes en train, avec l'État, le préfet, le sous-préfet et avec également maintenant l'hôpital de Montluçon, en train de mettre en place le retour des deux blessés.
Il y a une date pour ça ?
Non, on n'a pas de date, parce que tout dépend de l'autorité médicale. C'est lorsque l'autorité médicale turque considérera qu'ils sont transportables, eh bien que nous organiserons le rapatriement en France, alors avec peut-être d'ailleurs un passage dans un hôpital spécialisé avant de les accueillir à l'hôpital de Montluçon. Et pour celui qui n'est pas blessé physiquement, mais mentalement, parce que il a vécu cette fusillade, il a reçu des corps qui tombaient sur lui et qui étaient morts, il est vraiment traumatisé, donc il va faire l'objet de soins particuliers du point de vue, je dirais, psy, parce que c'est vrai qu'il a vécu une épreuve tout à fait redoutable, et donc on doit se mobiliser autour de la communauté et autour de ces familles qui vraiment aujourd'hui sont dans la peine.
12 janvier, c'est une date importante aujourd'hui. Fini la communauté d'agglomération montluçonnaise. Bonjour Montluçon communauté, vous êtes serein à l'heure ce soir donc d'installer ce nouveau conseil communautaire?
Alors, je ne suis plus président.
Oui, c'est vrai.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Bon,
puisque la loi NOTRe a été tellement bien conçue que dans un certain nombre de domaines, elle pose des problèmes considérables. Je ne veux pas tous les évoquer. Mais par exemple, c'est vrai que depuis le 1er janvier, il n'y a plus de communauté d'agglomération. Bon. Et donc, ce soir, nous allons installer la nouvelle communauté d'agglomération qui accueille donc 11 nouvelles communes. Nous passons de 10 à 21 communes, mais des communes essentiellement rurales, et j'ai beaucoup travaillé en amont avec notamment donc Christian Chiteau, le président des 11 communes du pays de Marsilla, pour faire en sorte que ce mariage soit un mariage réussi, soit un mariage où tout le monde trouve, je dirais, dans la nouvelle structure ce qu'il est en droit d'attendre. J'ai beaucoup insisté d'ailleurs pour que ce mariage se fasse sans conséquences fiscales, ni dans le domaine des compétences qui sont très différentes entre l'actuelle agglomération et les communes rurales. Eh bien, nous avons réussi, je dirais presque, la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on a trouvé un accord sur les compétences et qu'il n'y aura pas d'augmentation de fiscalité pour les 11 communes qui entrent donc dans cette nouvelle agglomération. Moi, je souhaite que nos amis élus et les populations donc du pays de Marseille ils trouvent leur compte, et j'ai dit d'ailleurs sous forme de boutade qu'on va faire de l'aménagement du territoire, nous. Comme j'aimerais que l'État le fasse au niveau national, eh bien je vais l'organiser au niveau local pour que justement les 11 communes qui entrent dans le dispositif bénéficient des mêmes prestations et des mêmes moyens pour le développement donc de leur territoire que la ville-centre.
Venons-en à 7h48 au projet 2017. Il y a pas mal de choses que vous avez évoquées lors de vos vœux. Évidemment, il y a l'aménagement des berges du Cher. Est-ce qu'on va avoir les premiers travaux dès cette année ?
Je l'espère. C'est un immense projet, vous le savez, qui nous occupera au moins jusqu'en 2020, mais je pense débordera, puisque c'est un projet ambitieux qui doit se développer le long du Cher, hein, pour faire en sorte que tout le bassin montluçonnais, hein, soit concerné par ce projet d'aménagement qui préfigure en fait le bassin montluçonnais du 21e siècle. Donc nous avons fait appel à des grands architectes, à des spécialistes de l'environnement de renommée internationale. Ils nous ont produit déjà un certain nombre de propositions. Ces propositions, nous allons les porter devant la population. C'est-à-dire que dès le mois de février, parce que le mois de janvier il est pris par un tas de choses, mais dès le mois de février, eh bien je partirai avec l'équipe municipale et avec monsieur Bousquet et avec monsieur Devigne en direction donc de la population, des quartiers, pour expliquer voilà ce qu'on va faire à la Verrie, voilà ce qu'on va faire à Pierre-Leroux.
Ils pourront proposer, les habitants ?
Comment ?
Ils pourront proposer, faire des propositions.
Justement, c'est bien pour cela. C'est pas uniquement, c'est pas sens unique. On ira voir donc nos concitoyens pour leur dire voilà ce qu'on vous propose. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et si vous avez des propositions à faire, c'est le moment, hein, parce que on va travailler ensemble. Et puis nous irons bien sûr au-delà de Montluçon. Nous irons dans les différentes communes de l'agglomération pour rencontrer bien sûr les élus, mais également les population, car c'est un projet ambitieux, un projet global qui traite non seulement du déplacement, mais de l'environnement, et pourquoi pas également des possibilités de développement économique de tel ou tel territoire. Voilà.
La première pierre de la caserne de gendarmerie, ça c'est sûr, 2017, parce que
c'est sûr, cette année c'est fait.
Ça y est, c'est fait.
Les gendarmes n'osent même plus y croire, tellement ils attendaient ça depuis très 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 longtemps. Je dois dire que l'État dans cette affaire n'a pas fait diligence. Si j'avais pas insisté depuis des années, eh bien la caserne de gendarmerie ne serait toujours pas à l'état de chantier en 2017. Là, elle va l'être. On va mettre la première pierre et j'espère que nos gendarmes seront enfin installés dignement dans des locaux qui correspondent à leur fonction extrêmement difficile. Donc ça y est, c'est parti et ça sera bien pour 2017.
Alors, il y a une question de Jeffy sur Twitter notamment qui nous demandait, lorsqu'on a annoncé votre venue, le multiplex, demandez-lui où est-ce qu'on en est.
Ben, le multiplex, nous en sommes toujours au même point. Nous attendons, c'est-à-dire que tout est prêt,
oui,
pour le premier coup de pioche. Tout est prêt. Nous attendons simplement donc la décision de la cour d'appel administrative de Lyon, qui est saisie maintenant depuis plusieurs mois. Et dès que la cour d'appel se sera prononcée, nous entamerons les travaux. Malgré les nouvelles gesticulations de l'actuel
propriétaire. Dans la montagne du jour, l'actuel propriétaire. Ouais. Palace qui annonce la rénovation.
Oui, c'est formidable, c'est formidable. Je préfère ne pas commenter cela, voyez-vous, hein, parce que je trouve ça indécent.
D'accord, vous ne croyez pas du coup à ce projet.
C'est un leurre. C'est un leurre. C'est un nouveau leurre pour gagner du temps. Voilà, et pendant ce temps, nous n'avons pas de cinéma.
Bon,
digne de ce nom.
Parmi les projets également, il y a la rénovation du centre Athanor, 1 million d'euros d'enveloppe.
Il y a Athanor, il y a le château des Ducs de Bourbon, il y a la tour fondue. Bref, il y a un certain nombre de chantiers. Des chantiers qui intéressent directement la ville. Et puis des chantiers qui sont, je dirais, d'initiatives privées ou publiques. Dans lesquels la ville est quand même un peu impliquée, je pense à l'SPA qui va réaliser un centre d'accueil.
2 millions d'euros.
2 millions d'euros, donc ça sera sans doute un des plus beaux de France. Il y a également, dans un autre secteur, le château de Saint-Jean. Mmh. Le château de Saint-Jean, donc j'ai travaillé beaucoup avec donc le nouveau propriétaire pour faire en sorte qu'il ait l'espace nécessaire pour nous créer quelque chose de grande qualité. Donc on a vendu quelques espaces à Saint-Jean. Et puis il y a le tribunal également, le tribunal de grande instance qui va récupérer les locaux de l'ancien service des eaux. Bref, on est partie prenante d'une certaine manière à la réalisation de ces nouvelles installations qui sont importantes pour Montluçon. Le tribunal était vétuste et il fallait vraiment faire quelque chose. Le château de Saint-Jean, on n'avait pas le droit de laisser ce cadre extraordinaire qui a eu une réputation dans le passé à l'état de ruine, mmh. puisque c'était le cas et qu'il était squatté en plus. Bon, donc aujourd'hui on a trouvé le repreneur qui va bien, ça c'est pas fait tout seul, je vous garantis, mais aujourd'hui c'est là, et puis la SPA c'est quelque chose de bien aussi.
Il reste 2 minutes pour parler et bien de quelque chose que vous avez évoqué lors des vœux. L'aménagement du territoire doit préserver les villes moyennes, c'est votre crainte à l'orée de cette année 2017.
C'est ma crainte et c'est la crainte de nombreux élus des villes moyennes. On voit bien la tendance actuelle avec les grandes régions et avec la métropolisation. C'est un véritable danger. On risque de concentrer dans des grandes métropoles des populations immenses qui ne trouveront pas le moyen de s'épanouir convenablement, qui concentreront, je dirais, toute l'activité économique parce qu'on mettra les infrastructures qui permettront justement cette explosion du développement économique. Et pendant ce temps-là, des villes moyennes qui assurent l'équilibre du territoire, qui assurent le maintien de la ruralité, seront, si on y prend garde, appelés à disparaître. Je vous donne un exemple, c'est tout simple. Si nous n'avons pas, nous, l'électrification de la ligne Montluçon-Paris, si nous n'avons pas, à échéance 2025, la grande vitesse ferroviaire, je vous garantis que notre bassin montluçonnais va souffrir parce que nous ne pourrons pas développer économiquement convenablement les choses. Pour faire venir des industriels, pour faire venir des professeurs, pour faire venir des médecins, il faut que nous soyons équipés comme les métropoles. Or, la crainte que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que ces grandes métropoles absorbent tous les financements et tous les équipements. Mmh. Donc, il y a là un danger extrêmement important. Mais c'est pas un danger uniquement, je dirais, montluçonnais. C'est un danger national. Et Johan Bousquette, qui nous a fait notre Montluçon demain, on va dire, est très interpellé au niveau international par ce phénomène. Et c'est ce qu'il a tenté de répondre à notre appel d'offres montluçonnais, parce que là, il y a une vraie réflexion pour les décennies qui viennent. Il faut permettre aux villes moyennes d'irriguer convenablement la zone rurale et faire en sorte qu'on n'organise pas le désert français.
Très rapidement, vous participerez à l'initiative du 1er février avec l'association de l'Ombre à la Lumière ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai un petit souci, c'est que le 1er février, je suis avec le directeur général de l'ARS pour parler de l'hôpital. Mais, je suis avec beaucoup d'intérêt donc l'initiative de cette association. J'ai déjà organisé le rendez-vous avec le sénateur Rémy Pointreau au Sénat, parce que allez voir à l'Assemblée nationale monsieur Lesterlin et ou rencontrer monsieur Vidalis, je suis pas convaincu que ça porte grand chose à notre dispositif ferroviaire.
Vous êtes favorable à cette démarche engagée par l'association. Vous êtes favorable à cette démarche.
Je suis favorable à cette démarche, mais sur le deuxième plan, si vous voulez. C'est-à-dire, il y aura l'Assemblée nationale où je n'attends rien. Et ensuite, il y aura le Sénat, où là, il y aura les sénateurs qui accueilleront donc nos Montluçonnais et qui feront une démarche groupée auprès du gouvernement. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui est absolument inacceptable et que Monsieur Brienne se félicite du résultat obtenu, c'est-à-dire la transformation d'une ligne d'intérêt national en ligne régionale, je trouve ça indécent.
Daniel Duglery, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct.